de perdre son emploi. Mais comptez le nombre de personnes qui vous apprennent rien. C'est la game du Canadien une heure avant, là, qui font juste jouer les. Puis c'est sa job, jouer majorette, ouais. Tu sais, occuper le temps parce qu'il faut parler du Canadien. Sont une maudite gang, puis une maudite gang après aussi, là.
Il y a des questions qui ont été posées ensuite de ça par les journalistes. Puis d'ailleurs, ça portait sur le hockey parce que les droits de diffusion que TVA Sport, ben, que Bécard avait acheté pour TVA Sport, ça vient à échéance cette année. Puis on sait que Rogers avait refait l'acquisition parce qu'en gros, la LNH vend tous ses droits à Rogers. Puis ensuite de ça, c'est Rogers qui dispatche au plus offrant. Ça a coûté 11 milliards de dollars canadiens pour ce qui commence à la prochaine saison et ce qui va courir jusqu'en 2037-2038. Puis TVA Sport n'a toujours pas renouvelé ses droits sur les matchs. On sait que RDS, en octobre, a annoncé qu'il y avait une entente, eux, pour 45 matchs régionaux de l'équipe par saison à partir de 2026-2027.
C'est moins de matchs que par les années précédentes,
alors
en passant.
Il y a plus
en
de
avait
matchs,
une soixantaine.
Alors qu'il y a plus de matchs en prochaine saison, hein?
Ben, deux games de plus.
Deux games de plus, OK. Ouais. Puis là, ce que Pierre-Carl Péladeau a répondu à la question, à savoir, allez-vous présenter encore du hockey? On serait toujours en cours de négociation. Je me suis posé la question si... Tu sais, je comprends que TVA Sports, c'est des abonnements. Je pense qu'il y a de moins en moins de monde qui s'abonne nécessairement à des chaînes spécialisées où c'est temporaire. Ouais. Ça serait pas mieux en revenu publicitaire de le passer à TVA?
Bien, moi, je pense que rendu là, oui. Là, particulièrement dans, les prochaines années où le Canadien va faire des séries éliminatoires qui vont être particulièrement longues. Mais si on ne renouvelle pas les droits de diffusion du Canadien, TVA Sport, la Switch, il va la mettre à off dans les semaines qui vont suivre. Là. Je veux dire, c'est la seule raison pour laquelle tu as un réseau de sport. Tu avais deux raisons. C'était pour avoir les droits du Canadien en attendant les droits des Nordiques. La raison 1 amenant la raison 2. La raison 2 n'arrivera pas. Fait qu'à partir de ce moment-là, si on renouvelle pas pour les droits du Canadien, attendez-vous à la fermeture de TVA Sport incessamment. Là.
Dans les autres nouvelles, il y aura une autre mission pour la première ministre, cette fois-ci du côté de la France, à part du 16 au 20 mai. Puis pourquoi la France? Selon ce qu'on peut comprendre, elle va rencontrer des entreprises qui doivent investir en défense parce que l'Union européenne a annoncé un plan de dépenses de plus de 800 milliards d'euros pour son réarmement. Puis clairement, on voudrait notre point du gâteau du côté du Québec. Fait que ça ferait partie des rencontres que Christine Fréchette aurait à ce moment-là. J'aurais jamais cru vous dire à un moment donné que le Québec tentait de mettre en valeur ses entreprises pour des budgets de la défense. C'est quand même capoté. Mmh.
Pour le réarmement de l'Europe.
Entre autres. Ou en... c'est fou, là. Ouais. Il y aurait peut-être aussi une rencontre avec le président français Emmanuel Macron qui serait à l'horaire. Je vous ai glissé au passage très rapidement tantôt le recensement. C'est la dernière journée pour le compléter. Mais attention, c'est une date de référence et non pas une date limite puisqu'on s'était parlé de la fameuse amende de 500$.
Si oui, c'est pas comme les impôts, là.
C'est pas comme les impôts. Puis les rappels se font juste au mois de juillet. Fait que, bon. Vous pouvez faire ça jusqu'à la fin de la semaine. Il y a un député, celui de Kingston et les îles, qui j'ai été obligée de faire une sortie en disant aux gens « Complétez votre recensement, c'est important pour certaines décisions et certains investissements parce que tu as des gens qui renvoient en écrivant dessus « Mange la crotte, Carney, t'auras pas mes informations » ou ce genre d'affaires.
Ouais, j'ai vu quelques vidéos passer sur les réseaux sociaux. Pas le remplir, c'est une chose, là, mais développer autant de haine envers... Je l'ai fait, là, pour 4 personnes, ça m'a pris 5 minutes.
Non, c'est brûle, ce monde-là.
Mais là, puis... Denis, ils ont des infos personnelles sur toi.
Mais sont partout tes infos. Probablement que ces gens-là qui écrivent ça, c'est les rejets des plateformes Facebook.
Puis, ben, sérieux. Puis bien franchement, là, je m'attendais à des questions pas mal plus poussées que ça. Là. On m'a demandé mon nom, le nom de mes enfants, le nom de ma blonde, puis on était quel sexe. Là. Ça a bien été, là.
J'avais le long, là, puis il n'y avait rien d'invasif dedans. Là. Mm-hmm. Genre zéro. J'étais quasiment déçue. J'avais le goût de raconter des choses. Finalement, Tagou...
C'est ça. Tu sais, les enfants, un tel, 10 ans masculin. L'autre, 12 ans masculin.
Je pense que tu ne donnes même pas leur nom. Hein?
Moi, j'ai...
Je pense qu'il n'y a même pas de nom dedans. C'est genre juste enfant, l'âge, puis tout, tu sais, c'est exactement la scolarité. Ouais.
C'est juste à sexe que j'ai bogué, là, rendu à moi. Là, je voulais répondre. Ben, non, c'est tranquille par les temps qui courent. Je dors, je me couche de bonne heure, mais j'avais une cause. Ouais, non, c'est ça. C'est
ça. C'est ça, t'avais le goût de te confier. Hein?
Ouais, oui, fait que j'ai appelé un spécialiste.
Vous vous souvenez peut-être que Tiger Woods s'est fait arrêter après un accident de la route où il était sous l'influence de la médication. Il est allé se faire traiter du côté de la Suisse. Et ses avocats refusaient de fournir au procureur de la Floride la liste de médicaments qu'il prenait. Finalement, on s'est entendu, fait qu'ils vont devoir remettre ça. C'est toute la médication qu'il aurait pris entre le 1er janvier et le mois de mars.
Médication,
j'ai l'impression qu'on va avoir des surprises.
Médication prescrite.
Oui, prescrite, mais Denis, tu sais comme moi que des célébrités ont accès à des prescriptions.
Absolument.
Quand même.
C'est là que ça devient intéressant.
Oui, j'ai hâte de voir jusqu'où ils vont pouvoir aller avec ça. Et en terminant, on a appris ce matin que le gestionnaire de restaurant Foodtastic, eux autres, ils ont un tas de chaînes, puis ensuite de ça, il y a des franchisés, là, mettons La Belle et la Bœuf, c'est eux autres, Pita Pit, etc., etc., ont eu les droits exclusifs pour le retour de Dunkin' Donuts au Canada. Hey! Donc, ouverture de nouveaux restaurants qui vont être pareils comme on les connaissait-ish, là, des breuvages.
Y a-tu vraiment un besoin pour ça?
Veux-tu qu'on se parle?
Ben, c'est parce
je comprends
qu'il y a...
que c'est de ma faute s'ils ont fermé parce que j'allais manger des beignes deux fois par année. Mais je m'ennuie des Dunkin's.
Le Krispy Kreme est en voie d'extinction.
Oui, puis là, t'as comme plein de nouveaux beignes là, qui ont commencé à pousser
ouais,
un peu partout aussi.
Oui, mais ils sont trop
costauds
pour moi.
Oui, c'est ça. C'est parce que les homards de ce monde puis ouais. les boîtes à beignes et compagnie, c'est ça. C'est parce que c'est huge. Là, c'est...
Vous voulez des beignes cheap?
Ben, des bons vieux beignes glacés.
Mais il y en a au Tim Hortons.
Ils sont pas pareils.
C'est pas pareil, mon Dieu.
Non, ouais.
Moi, okay. c'est vraiment les beignes à crème.
Ouais,
là.
Ouais, ouais.
Le chocolat, ouais. érable, puis vanille. Pas souvent dans une année, mais
puis chaud. Là. Oh. C'est comme ça qui est hot.
Tu sais, quand tu traverses les lignes aux États-Unis, il y en a un juste après. Là. Petit stop à chaque fois.
Le pire café que j'ai jamais pris de ma vie est un café Dunkin' Donuts. Ouais, j'avais l'impression de boire du liquide à vaisselle.
Ben voyons.
J'avais l'impression que j'avais fait fondre un Tide Pod avec deux laits, deux sucres.
Je pense que les Dunkin' ont fermé avant que je commence à boire du café, fait que je peux pas vraiment me dire.
Il est 15h06, vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. 11 degrés à Québec, risque de gel au sol ce soir et cette nuit, minimum de 0 degrés. Demain, essentiellement, du soleil, quelques nuages en après-midi avec un maximum de 16 degrés, nuageux avec des averses jeudi, maximum de 14. Plein soleil vendredi, maximum de 21 degrés. Du temps variable pour la fin de semaine. C'est présentement ce qu'on prévoit avec un maximum de 19 pour samedi et de 20 degrés pour dimanche. Sur les routes, Audrey.
Commence à y avoir des ralentissements sur la capitale, direction Est, hauteur Robert Bourassa. Si vous êtes sur Henri IV Sud, ça se passe à la hauteur de Charest. Charest Est, entre Henri IV et Robert Bourassa, c'est au rouge. Et sur la 20, direction Ouest, c'est à la hauteur de Chemin des Îles qu'on sent un certain ralentissement. Pour le reste, à date, ça va. Autre chose, 88-971-102 texto.
Dans la mouture actuelle où le prix des billets de spectacle est de plus en plus cher, je voyais même des gens, des observateurs et des analystes canadiens saluer le fait que les billets pour aller voir le Canadien de Montréal n'étaient pas trop chers en série si tu compares à ce qui était disponible du côté de Toronto dans le temps qu'ils les faisaient, les séries. Tu sais, on a vu les prix exploser, que ce soit pour les shows en stade, les shows en aréna et ainsi de suite. Et c'est devenu un problème, pas seulement au Québec ou au Canada, mais c'est rendu un problème à grandeur de la boule et particulièrement aux États-Unis. Ben, dans ce contexte-là, faut peut-être pas se surprendre que le prestigieux magazine Forbes consacre un feature au Festival d'été de Québec. Ce qui est quand même très hot, là, c'est le journaliste Jim Ryan qui a pondu un long texte sur le festival à contre-courant des tendances internationales dans le monde du spectacle et de l'entertainment. Il a parlé à... Voyons comment est-ce qu'il s'appelle...
Louis Bellavance.
Louis Bellavance, mais l'autre aussi qui s'occupe de la programmation,
Arnaud,
c'est Racine.
Arnaud Cordier?
Il n'y a pas un Racine qui... j'essaie de retrouver son prénom parce que j'ai juste sorti des...
Nicolas Racine,
c'est exactement.
C'est le PDG de Bleu-Feu.
Bon, tu vois... Nicolas Racine et Louis Bellavance qui ont été interviewés pour le texte. Puis j'ai sorti quelques extraits. Là, c'est en anglais, fait que je vais essayer de traduire à mesure. Ça se peut que je massacre quelques phrases, mais je me dis que je peux pas être pire qu'une ancienne première ministre péquiste. Donc, merci de votre belle indulgence. On va faire notre possible tous ensemble. On dit qu'on est prêt de célébrer le 60e anniversaire du Festival d'été de Québec, mieux connu sous le nom de FEC. Et on dit que c'est devenu le plus gros festival de musique du pays au Canada, qui se tient à chaque année dans la ville de Québec depuis 1968. On dit que le festival a grandi depuis ses racines modestes et que maintenant, c'est hallucinant parce que ça dure 11 jours en plein cœur du mois de juillet. Et là, on fait le tour des artistes qui sont déjà venus comme tête d'affiche, les Elton John, les Rush, les Foo Fighters, les Metallica, les Stevie Wonder, les Rolling Stones, les 50 Cent, les Who, Alanis Morissette dans les 15 dernières années. Puis on dit que le festival n'a jamais cessé de grandir. Et là, on mentionne le prix du laisser passé à 180 $ pour couvrir les 11 jours du festival. Un vol en plein jour, nous écrit Jim Ryan. Et là, on parle des têtes d'affiche de cette année, Gwen Stefani, Muse, Jelly Roll, Limp Bizkit, les Lumineers, entre autres. Puis là, c'est écrit, si vous avez arrêté de lire à partir du moment où j'ai mentionné 180 $ et que vous avez commencé à faire des recherches sur Google, c'est comprenable parce qu'en Amérique, on n'a jamais entendu parler de ça, un laissez-passer à 180 $ seulement pour 11 jours. Et le reste de l'article, ben, c'est de couvrir le modèle du festival d'été qui est un modèle sans but lucratif. Ouais. Donc, Belle Avance puis Racine parlent de ça un peu puis expliquent ça aux journalistes.
L'argent est réinvesti dans la programmation.
Oui, puis à chaque année, ce qu'on veut faire, c'est pas des profits parce qu'on n'est pas un organisme à but lucratif. Nous autres, on essaye de « break even ». Et on amène le fait qu'il y a des subventions qui viennent du fédéral en bas de 10 % qu'on nous dit par rapport à d'autres grands festivals au pays où des fois, on est financé jusqu'à 25 ou 30 %.
Puis de mémoire, le financement... La subvention est utilisée pour la programmation qui est gratuite, donc qui est présentée aux gens qui n'ont pas de laissez-passer. Il me semble que c'est la twist qu'on y donne.
Les explications qu'on donne aux journalistes du Forbes ont dit les gens restent en ville à cause du festival. Ils s'en vont pas ailleurs dépenser leur argent. Ils le font à Québec. Donc, c'est bon pour les taxes, c'est bon pour les hôtels, c'est bon pour les restos, c'est bon pour les business. Il dit, avec tout ce qu'on peut amener, c'est le fun de voir que avec le prix du laisser-passer, on amène les gens à dépenser plus en ville. Ce qu'ils ne dépensent pas sur le prix du billet, ils vont le dépenser sur une bouffe avant ou après. Et le journaliste prend beaucoup de temps à décrire le setup de la ville de Québec, les champs de bataille des plaines d'Abraham, ce qui fait en sorte que, tu sais, il parle des fois que la plupart des festivals se déroulent dans des lieux isolés où si tu veux manger, tu manges au festival, puis si tu veux boire, tu bois au festival. Puis quand vient le temps de sortir, c'est des embouteillages à n'en plus finir alors que tu n'as pas accès à rien. Là, ils disent, là, tu es en plein cœur de Québec.
On est chanceux, par exemple. On a le spot pour. Là.
C'est ça que je trouve intéressant. Tu sais, ça a pris 15 ans faire en sorte qu'on prenne le festival d'été pour un acquis. Mm-hmm. Je trouve que ce texte-là nous rappelle à quel point on est chanceux. Pas seulement de la qualité ou de la variété de la programmation, du rapport qualité-prix, mais le fait que 10 minutes avant que le show commence, tu peux être au Saint-Hubert sur le coin ou tu peux être d'un bar de Grande Allée, puis 15 minutes après la fin du show, tu peux être retourné d'un bar, tu peux être retourné à l'hôtel, tu peux être retourné, je veux dire, t'es dedans. Là,
je vais vous faire un parallèle avec le festival qui fait le plus jaser depuis plusieurs années. Puis, il avait vécu un down, mais je pense que Coachella, cette année, a réussi à tirer son épingle du jeu quand même pas mal. Coachella, c'est en Californie. Ça se déroule à Indio. C'est sur le terrain d'un club de polo. C'est à proximité de Palm Springs. Palm Springs, là, c'est une petite ville où les riches Californiens allaient pendant l'hiver parce que c'était frais sur la côte. Fait que c'est des petits bungalows, c'est des minuscules hôtels. Fait que aller là-bas, t'es un peu captif. T'sais, tu peux pas retourner le soir, mettons, à Los Angeles pour te coucher. Tu restes là. C'est deux week-ends avec les mêmes programmations sur deux week-ends. Un seul week-end admission générale, c'est entre 650 et 550. Là, c'est admission générale pour 3 jours de festival. Puis là, c'est en US. Puis rendu là-bas, faut que tu trouves une manière de te loger. Puis je vous confirme que les Airbnb là-bas, pour te louer le beau petit bungalow mid-century, il va vous coûter pas mal plus cher qu'une chambre d'hôtel à Québec ou encore votre RTC pour vous rendre au festival.
Puis tu vois la scène de la grosseur d'un téléphone tellement que t'es loin.
Tellement que t'es loin. Puis effectivement, il n'y a pas de restaurant à proximité. Je vous le dis, c'est gros comme ma main Palm Springs. Là. C'est minuscule. C'est magnifique, mais c'est minuscule. Nous autres, tu peux très bien décider que tu as ta passe sur 11 jours, pas aller à 100 % des shows, rentrer dans ton argent puis quand même profiter de la ville. C'est assez exceptionnel, là.
La conclusion du texte du magazine Forbes sur le festival d'été, c'est des déclarations de Louis Bellavance, puis je trouve sa réflexion intéressante. Il dit « Le festival d'été, c'est un gros poisson dans un petit lac. » Il prend l'exemple des Packers de Green Bay. Tu sais, les Packers de Green Bay, c'est un petit marché, mais c'est une grosse marque, c'est un gros brand, puis c'est une grosse équipe. Et ça fait en sorte que le sentiment d'appartenance est très fort. Puis il dit, Le sentiment d'appartenance des gens de Québec pour le festival d'été, c'est comme si c'était leur franchise de football ou leur Canadien de Montréal à eux autres.
On est fiers.
Puis c'est vrai que c'est devenu ça, tu sais. Oui. Oui, on est devenu pointilleux dans les dernières années quand c'est pas quand la programmation est moins à notre goût ou whatever, mais on s'est promené pendant des années avec le drapeau du festival d'été puis qu'on était fiers que ça se déroule dans notre ville. Fait que c'est le magazine Forbes qui en parle et dans le climat actuel, soyez pas surpris que ce genre de texte-là amène des regards supplémentaires sur le festival d'été. C'est un des gros enjeux, entre autres, du rock présentement. Pourquoi le rock se meurt? Parce que plus personne n'a les moyens d'aller voir des concerts rock.
Il n'y a plus rien de punk à aller voir un concert rock à 300$ un billet en haut.
La musique rock, c'est de la musique de col bleu. C'est de la musique de monde qui travaille et qui n'ont pas énormément d'argent. T'sais. C'est dans l'ADN du rock. C'est la musique des ouvriers. Pas un ouvrier qui est capable de payer 400$ pour aller voir un show de Metallica au stade whatever, là, tu sais.
Au-delà du rock, c'est la culture en général qui est de moins en moins accessible. Fait que le festival nous permet au moins d'avoir cette accessibilité-là.
Fait que soyez pas surpris si y a de plus en plus de touristes qui viennent juste pour le festival d'été pendant le mois de juillet, dépendamment des annonces de line-up. Puis peut-être que ça va être, je sais que c'est déjà difficile, d'ailleurs, ils en font mention dans le texte, là, que ça n'a même pas pris une heure avant de les laisser passer la dernière fois, mais la compétition devient de plus en plus internationale pour mettre la main sur des billets. Parlant d'événements, il est 15h24, merci à Martin Tremblay. On lui a envoyé un texto un petit peu plus tôt cet après-midi parce qu'on avait des questions sur l'écran géant du Centre Vidéotron, puis il nous a répondu très rapidement. On lui a demandé à quelle hauteur il va être, l'écran géant, puis lui nous répond « ça va dépendre jusqu'à quel point nous vendons des billets dans les hauteurs du centre. On va faire des tests pour avoir les meilleurs angles de vue pour tout le monde, mais effectivement, l'écran se baisse davantage que ce qu'on peut voir pendant un match de hockey. »
Mais c'est censé niaiseuse, là.
Comment ça?
Ben, non, mais c'est parce que tantôt...
Parce que t'as acheté tes billets sur le bord de la bande.
Ben, tantôt, pendant la pause, je parlais avec une collègue qui disait « j'ai failli avoir le même réflexe que
toi. » C'est normal, il n'y a rien d'anormal là-dedans.
Tu vois que tu peux avoir des places dans les halles, tu te sens super chanceux. Mon Dieu, c'est rare que je peux être proche de la glace. Ça sert à rien d'être proche de la glace, là.
Fait que là, on est en train d'écouler les billets dans les sections 200 du Centre Vidéotron. 12 000 billets de vendus jusqu'à maintenant pour le match de jeudi entre le Canadien et les Sabres. Le Club Bud va ouvrir à 17h. Le Blackstone ouvre à 16h pour les gens qui veulent commencer le party un petit peu plus de bonne heure. Les portes en tant que telles, ça ouvre à 17h30 et le début du match à 19h. Le stationnement est à 10$. Les règles pour les packs sacs puis tout ça, c'est toujours les mêmes règles au Centre Vidéotron. Fait qu'allez voir dans les détails. Là, vous rentrez pas là avec un pack sac de camping.
Ni un sac de plage.
La réadmission est interdite. Mm-hmm. Ça non plus, ça ne change pas. Fait que c'est les détails qu'on a là, pour l'événement qui prend de plus en plus d'ampleur au moment où on se parle.
Tu dis le coût du parking?
Oui, 10$.
C'est bon.
Yes, donc voilà. Puis si on a d'autres informations, évidemment. On va vous les communiquer. On va y aller un match à la fois. Il y en a un ce soir, d'abord et avant tout.
Tu y vas-tu, finalement?
Au Centre Vidéotron.
Ouais.
Mes enfants m'en ont pas encore parlé.
Oh, ils triperaient tellement, Dan.
Ouais, mais on a beaucoup de plaisir. Pour vrai, là, moi, c'est mes petits moments...
Le pire, c'est que je te crois.
Mes petits moments agréables. C'est tough, actuellement. Niaiseusement, là, à 10 et 12 ans, on dirait que l'écart entre les deux est immense, puis ça fait en sorte que ça crée des fictions, des chicanes, des affaires plates à gérer. Il y a un bout de parenting qui est super le fun. La job de parent, c'est pas le fun tout le temps. Puis le bout où ce qu'on est les trois gars assis dans le salon puis qu'on écoute le hockey.
C'est un moment de trêve.
Ouais. Je pense qu'on est trois à l'apprécier plus que des get-together. Ou mon plus jeune va trouver qu'il y a trop de bruit puis il va vouloir s'en aller après une période. Fait que je vais laisser les grands rassemblements à ceux qui aiment ça. Vous autres, vous allez être là,
oui.
Les deux?
Absolument.
Sur le bord de la bande, si vous cherchez Audrey.
Oui, c'est
à
ça.
À le coup cassé sur le bord de la bande.
C'est celle qui a carrément levé des airs, là. C'est moi.
15-26, vous êtes à Boulevard 102-1. C'est Gravel dans le retour. On revient. Gravel. Nouvel épisode de la série de podcasts des grands événements qui est disponible depuis hier sur toutes nos plateformes, notre chaîne YouTube Boulevard 102.1 sur les services de streaming. En passant, Spotify s'est remis à fonctionner dans la dernière demi-heure. C'est un des endroits où vous pouvez retrouver tous les podcasts de l'univers Boulevard 102.1. Nouvel épisode des grands événements de Québec. On s'attarde au 400e de la ville. s'annonçait pour être tout un fiasco. Il y avait l'ex-journaliste Julie Lemieux qui suivait à temps plein et qui avait de très bonnes sources à savoir « Hey, on s'en va-tu dans le mur avec le budget qu'on a pour célébrer le 400e de la ville de Québec? » Un nouveau maire qui arrive à peu près de nulle part, Régis Labeaume, mais qui très rapidement a une grosse décision à prendre. Il décide de tasser le DG du 400e et de le remplacer par un certain Daniel Gélinas, que je salue d'ailleurs s'il est à l'écoute. On a eu à échanger quelques messages dans les dernières semaines. Puis je sais qu'il aurait voulu contribuer à ce podcast-là, mais on va en faire un autre.
Il me semble qu'il y a encore des choses à dire, d'ailleurs.
Ah, je pense que oui. Je sais que Daniel est dans un nouveau projet là, avec l'eau. Là.
Oui, c'est vrai.
Fait qu'il y aura probablement quelques opportunités de se reparler en ondes. Pour les gens qui ne savent pas c'est qui Daniel Gélinas, c'est le gars qui a transformé le festival d'été, qui a vraiment pris le virage international, qui après ça a été poursuivi là, par la gang de Louis Bellavance. Mais Daniel Gélinas s'est retrouvé en charge du 400e. Puis c'est sous sa gouverne, entre autres, qu'on a fait venir Paul McCartney sur les plaines d'Abraham. Fait qu'on se remémore tout ça dans ce podcast-là qui est maintenant disponible sur toutes nos plateformes. Il est 15h35.
Hey, kids! Vous êtes prêts pour votre leçon de finance et fiscalité?
Je vous demande de vous arrêter.
Mais voici Alex Leblond.
Mesdames et messieurs, accueillons Alex Leblond, planificateur financier. Salut!
Salut!
Ben, ça va?
Ça va bien, vous?
Oui. Est-ce que tu trouves que c'est rendu cher au restaurant puis c'est ce qui a motivé ta chronique puis ta réflexion?
Ben, je l'avais depuis quelque temps dans mon genre de dossier de sujet intemporel.
Ouais.
Si jamais il n'y a rien, tu ramasses de quoi là-dedans. Puis là, la semaine passée, on en a parlé beaucoup, entre autres, avec tout ce qui est étoile Michelin.
Ah oui.
Québec-Montréal, on a quand même été choyés là-dessus. Là.
Beaucoup de restaurants et de pubs qui se distinguent à grandeur de la province, mais particulièrement dans la ville.
Soit étoilés, soit recommandés.
Oui. Ouais. Puis on dirait qu'au début de l'année, on a eu beaucoup de fermetures de restos à Québec.
C'est vrai, t'as raison.
Puis même moi, avec ma blonde, tu sais, on aime ça aller au resto. Là. C'est comme un de nos plaisirs, pas coupables, mais c'est une des activités qu'on aime faire. Puis il y a 3 ans là, qu'on a aménagé chez nous, on est comme au centre-ville. Là. Mm-hmm. Fait qu'on avait fait un pot de resto, on avait mis plein de noms de resto sur des petits morceaux de papier.
C'est donc bien une bonne idée.
Vraiment.
On mettait ça dans un pot, puis une fois de temps en temps, on en pige un, puis on dit bon, parfait, c'est là qu'on va.
Nice!
Hey. Mais là, depuis, ouais, nice, c'est le fun, mais depuis une couple de semaines, à chaque fois qu'on essaie d'en piger un, c'est vraiment des petits restos qu'on a mis. Fait qu'on les connaît pas
tous.
Exact. Tu t'en vas sur Google, fermé définitivement, fermé temporairement.
Il y en a eu plusieurs.
Ça fait une coupe qu'on tombe là-dessus. Je suis comme, OK, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans d'un point de vue économique, de comprendre, OK, c'est quoi la restauration? Pourquoi ça ferme autant? Qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là?
On sait qu'il y a un cycle, puis c'est peut-être cruel, mais je pense qu'en restauration, c'est comme quand tu vas magasiner au Chaloux puis que tu cherches des bières. On dirait que tu es tout le temps en train de chercher de la nouveauté. Puis il y a beaucoup de restaurants qui ont fait les frais de ça. Pendant 6 mois, c'est pas à l'ab. Pendant 6 mois, personne n'y va. Puis après, ça ferme.
Ouais.
C'est cruel, mais c'est niaiseux de même.
Écoute, présentement, là, puis là, on parle de restaurant, je parle pas du IW Amel. On parle de resto.
Avec des tables, service aux tables.
Exactement. Puis surtout indépendant là, d'un gars de Québec ou un gars de Lévis ou une fille de Québec, fille de Lévis qui se lève le matin et qui se dit je me prends un resto. Je parle de nos restos indépendants, là, vraiment plus culturels. Tu as 41% des restos présentement qui font 0$. Là. Fait qu'ils sont soit à perte ou vraiment ça à la limite de ramasser une pièce de profit.
Ça, quasiment à moitié, ça.
Ça, ouais. C'est partout. Ou c'est spécifique
ça, c'est au Canada.
Au Canada.
Puis, tu vois, au Québec, là, pour les restos indépendants, on a à peu près 80% des restos, justement, les quatre, on s'ouvre un resto à matin là, ou à soir, 80% de ces restos-là ne passent pas l'anniversaire de 5 ans.
C'est fou, hein?
C'est incroyable.
Puis, tu sais, la compétition est terriblement féroce. Puis, c'est des chiffres qui datent un peu, là, mais pendant une bonne période, le Québec, l'offre en restauration, représentait 25 % de l'offre canadienne. Puis juste dans la ville de Québec, une dizaine d'années de ça, on comptait un restaurant par 369 habitants. C'est pour vous dire à quel point c'est du stock. Il faut que tu te démarques. Puis tu n'as pas le choix. Là. Tu ne peux pas vendre trop cher, mais tu te retrouves dans des situations de même.
Mais là, Alex, je vais te faire mes réflexions de bonhomme là, que j'ai déjà faites en commandant dans un restaurant. Bon, dans ma tête, parce que je sais vivre. Là. Mais je me dis... Voyons, tabarnouche, comment ça se fait qu'ils ont de la misère à faire de l'argent? La pizza est rendue à 30$, la poutine est rendue à 25$. C'est-à-dire, à un moment donné...
Puis les portions diminuent.
Exact.
J'ai un peu la même réflexion parce que j'étais allé il y a quelque temps, la semaine passée, là, justement, puis ça suscitait un petit peu la réflexion pour la chronique. J'étais allé dans un pub dans mon quartier à Limoilou, puis je voulais écouter la game de hockey.
Oui.
Commande un oignon français parce que je n'avais pas prévu, mais il était dans le menu, puis ça me tentait finalement. Fait que je commande l'oignon français, 15$. Puis là, tu reçois ça, puis clairement, si tu veux juste regarder ce qu'il y a dans ton assiette en avant de toi, il n'y a pas 15$ de matière là-dedans. Là. Ça reste bien rien que des oignons trempés dans l'huile. Tu sais, c'est pas...
Fait que là, t'as pensé à ton prochain livre, ta retraite est dans ton frigidaire.
Exactement. Ça, c'est ton 2.
Je l'ai volé à Christian. Très bonne suggestion. 88-971-1021.
Parce que celle-là un petit peu. Anyway, okay. Ça, c'est la deuxième partie. Faut éviter de faire l'erreur de juste regarder ce qu'il y a dans son assiette puis dire, hey, je viens de me commander une assiette de pâtes à 36$. Je suis en train de payer le chalet du propriétaire du resto. Là.
Ouais.
C'est pas ça qui est en train de se passer. Dites-vous que, OK, oui, tu as la matière première là, dans ton assiette là, qui peut-être est très loin du prix du plat. Là. Bien, il y a une couple d'affaires là-dedans. T'sais, souvent, ces restos indépendants-là où on aime ça sortir puis on se fait une soirée, ils sont où? Ils sont dans le Vieux-Québec, ils sont en Basse-Ville, sont là où les loyers coûtent extrêmement cher. Mm-hmm. Fait que tu sois locataire ou que tu sois propriétaire de la place où tu installes ton restaurant, ça se peut que tu te fasses ramasser par ça. Rappelez-vous, ça date un peu aussi, là, mais en 2016, il y avait eu les commerçants de Grande Allée qui avaient fait comme une sortie sur les taxes municipales, parce qu'eux autres sont souvent propriétaires du bas de la bâtisse. Puis le gars de l'Inox, il avait dit, hey, moi, mes 4000 premières pintes à chaque année sont à la bombe.
Parce qu'il y avait eu un ajustement sur les taxes commerciales. Puis effectivement, ça avait paru là, beaucoup, beaucoup.
Ça fait ça comme chiffre quand même. Là.
Ouais, fait que tu sais, ça, c'est une des affaires que quand tu regardes ton assiette, là, ben, t'es en train de payer, oui, les pâtes, mais les taxes municipales aussi. Ouais.
Je sais pas si t'as ce chiffre-là, mais c'est Christian qui a de l'air un peu au courant de l'industrie. Il dit la nourriture, c'est seulement 28% du coût de la facture dans un restaurant bien géré.
Ouais, fait que tu sais, t'as la nourriture, t'as justement les frais fixes du restaurant comme le loyer, les taxes municipales, si c'est le cas.
Le rideau, j'imagine.
Oui. Le staff là, en restauration, là, surtout dans ce genre de resto-là, là, quand t'as quelqu'un qui est bon,
tu le gardes.
Tu le gardes.
Tu le payes.
Puis il se fait courtiser par tout le monde.
Hey,
c'est extrêmement dur de garder du staff.
On m'a raconté il y a quelques années qu'il y a dans des bons restaurants où il y avait des bons serveurs-serveuses, des bons cuisiniers, ils étaient attendus à la fin de leur shift. Par des gens qui cherchaient à embaucher puis se faisaient faire des offres d'emploi de cette manière-là.
Ouais.
Et c'est capoté. Hein?
Fait que tu sais, on parle beaucoup du salaire minimum, mais dans ce genre de restaurant-là, dans les bonnes tables à Québec puis à Montréal, on n'est plus dans le salaire minimum. Là. On est dans pas mal plus que ça. Fait qu'il est dans le coût de ton assiette de pâtes aussi. Puis si je reviens à mon oignon français pendant que j'écoutais le match du Canadien, faut comprendre que juste de diffuser un match, tu sais, mettons un pub sportif là, qui veut juste dire « Hey, on diffuse des matchs, on veut être un genre de happening pour que les gens viennent écouter ça », eux autres, ils ne payent pas l'abonnement à TVA Sport ou l'abonnement Sportsnet à 20$ par mois.
C'est
là.
Plus coûteux que ça. Là.
Si on regarde juste la cage il y a quelques années, parce qu'il y avait une grosse augmentation là, par rapport aux droits de diffusion, ça leur coûte 220 000$ par année. Juste avoir le droit de dire « Hey, je diffuse le Canadien dans mes établissements », ce chiffre-là date d'à peu près 6-7 ans. J'en ai pas trouvé de plus récent.
Mais ça a continué de monter. Là, tu regardes les droits de diffusion qui sont renégociés présentement pour la télévision. C'est sûr que ça coûte une fortune. Puis jeudi, l'événement au Centre Vidéotron, pourquoi c'est le premier match qui est présenté? Bien, parce que depuis le début des séries, c'est des négociations pour les droits. Là, c'est complexe. Là.
C'est vraiment complexe. Puis la Ligue fait beaucoup d'argent avec ça.
Ben
fait
oui.
À seconde où tu dis, hey, moi, il y a 200, 300 personnes dans mon établissement, bien, il faut que tu payes pour ces 200, 300 personnes-là. Fait qu'encore là, si on revient à la question de base qui est, hey, mon assiette me coûte 36$, mais j'ai peut-être 12$ de matière là-dedans. Ben, la balance est là, là. C'est pas vrai que le propriétaire est en train de t'en passer une petite vite.
Ben, je vais te faire ma réflexion de bonhomme numéro 2, puis je suis pas mal sûr de l'avoir faite quand on en a parlé en onde ensemble. Ouais, mais Costco, eux autres, le prix du hoy d'oeil, ça fait longtemps qu'il a pas monté, là.
Ouais.
Alors que si je m'en vais d'une petite cantine dans le coin de l'île d'Orléans, le prix du hoy d'oeil, il est plus à 1,50.
Ça fait 40 ans qu'ils sont sur le 1,50 pour le combo hot dog liqueur, là.
Chez Costco, ouais.
Ouais, puis techniquement, initialement, c'était 1,50 US. Puis ils l'ont mis 1,50 au Canada aussi, là.
Mm-hmm.
Parce que 1,50, ça sonne bien. Mais ça veut dire qu'il est encore moins cher ici qu'il l'est aux États-Unis. Mm. Faut comprendre que, ça c'est intéressant, là. Si je me prends un trio hot dog dans un petit road trip là, On a ça au Québec beaucoup. Là. Tu fais un petit
dans
road
trip. Dans une
cabane
à patates frites. T'arrêtes
exactement,
en route.
Exactement. T'arrêtes en
ça
route.
Ça m'a coûté 62 piastres l'autre jour pour deux personnes et deux burgers. Je voulais compter.
Ah oui, ça monte vite.
C'est énorme.
Fait que tu sais, si tu regardes ce que t'as en avant de toi, clairement, il n'y a pas 62 piastres qui se passent là.
Non.
Par contre, si on fait justement la comparaison avec Costco, faut comprendre que Costco, à chaque fois qu'ils vendent un hot dog, ils perdent de l'argent. On ne sait pas exactement combien par hot dog, mais les estimés, c'est à peu près entre 2 et 3 $ par hot dog
ils
en perte.
Il y a des gens qui avaient calculé que même si tu achetais les pains et les saucisses au Costco, ton hot dog te revenait plus cher que ce que tu payais quand tu le mangeais là-bas.
Mais pourquoi ils le font d'abord?
Moi, je suis sûr que c'est un piège pour attirer du monde.
Ben, c'est le principe du loss leader. Là. L'idée, c'est de dire... Tu sais, dis-toi que... Mets-toi dans la tête, dans la peau de Costco. Tu sais, le resto, tu sais où, il est comme au bout des caisses. Là. Eux autres, là, ils te regardent, puis ils viennent de te voir acheter du Nutella puis du papier de toilette pour les 3 prochaines générations. Ça leur dérange pas de perdre 1 piastre ou 2 piastres en te vendant un hot dog, parce qu'ils savent très bien que... Toi, là, tu vis dans l'espèce d'illusion que tu viens de faire des économies de fou. Là,
je vais te faire la
tu
pause.
Viens de dépenser 400$ alors que si tu en allais juste chercher du pain. Ils gagnent quand même dans le processus.
Tu viens de me faire allumer. La position du resto est assez stratégique.
Ben oui.
Tu y vas, mettons, juste pour le hot dog. Hey, finalement, il n'y a pas tant de monde aux caisses. On pourra aller faire des tours.
Ben oui,
on va aller ramasser une coupe de trucs après le hot dog. Fait que tu sais, t'as les gens qui ils vont pour le hot dog en sortant, mais t'as l'inverse aussi. Là.
Mais tu sais, le point là-dedans, c'est que tu peux pas comparer le casse-croûte chez Monique. Qui regarde, c'est Monique puis son mari, puis eux autres, la comptabilité
n'est
pas même que Costco Canada ou Costco US. Là. Eux autres, ils n'ont pas le choix de charger ce prix-là parce que chez Monique, ils n'ont pas le luxe de pouvoir opérer à perte, alors que Costco l'a.
C'est-tu la même stratégie que Costco utilise avec l'essence?
Oui, mais essentiellement, Costco ne fait pas d'argent sur l'essence. Là. Eux autres se disent, ben une des raisons pour lesquelles les gens vont prendre la carte, c'est peut-être entre autres l'essence. Mais tu sais,
ils vont se rattraper sur le panier d'éléphant que tu vas te garnir quand tu vas y aller.
Exactement. Ben, c'est ça. Exactement.
Fait que rendu là, il y a un autre problème. Puis ça, on en a parlé en début d'émission avec Véro. C'est que la marge de profit, souvent, tu vas la chercher sur l'alcool dans un restaurant. Mais là, les gens boivent moins. Hein? Ça doit jouer, là, ça aussi. Là.
Ça, c'est un crissi de problème. Puis justement, même moi, avec ma blonde, je vous disais qu'on aime ça aller au resto. Puis, mais on n'est pas des buveurs de vin. Fait que souvent,
au nombre de fois que je t'ai vu prendre un verre de lait pendant qu'on soupait. Là.
Ouais, ben avec un petit dessert, verre de lait.
c'est bon.
C'est bon. Puis il est bon le lait au resto, c'est toujours du 2% à montant. Moi, j'ai dû écrémer chez nous.
Hey, je comprends tellement. Ouais. C'est vrai que ça a l'air plus satisfaisant, ça devient une gâterie.
Mais tu vois, ça, c'est une autre affaire. Le verre de lait, c'est toujours comme 6 piastres, là, alors que c'est ridicule. Là. Mais c'est pas grave, c'est l'expérience. Mais bref, la marge de profit, là, justement, nous autres, des fois, on a les deux grosses coupes de vin parce qu'ils veulent vraiment que tu prennes du vin, puis on est comme on n'en prend pas, puis là tu vois la
déception.
Écoute, la déception en face du serveur ou de la serveuse et du restaurateur aussi parce que soudainement, on est une table qui est plus profitable. T'sais, sur mon assiette de pâtes que j'allais me commander, la marge de profit du restaurant, là, s'il est chanceux, va être de 3%, 4%, alors que sur l'alcool, ben là, les marges sont astronomiquement plus élevées. Puis là, des fois, les gens ils sont comme « Hey, je m'en fais passer une petite vite. Cette bouteille-là est 56$ à SAQ. Là, tu me la vends 122. » Faut comprendre que le modèle d'affaires, c'est ça. Tu sais, si tu prends pas cette bouteille de vin-là, les restos n'existeront plus. Il n'y a plus moyen d'opérer sans ça. Là.
Mais là, c'est comme une roue qui tourne, mais qui tourne dans le mauvais sens. C'est-à-dire, les restaurateurs, tout coûte plus cher, fait qu'ils chargent plus cher. Nous autres, on va au resto, on trouve ça cher. On reste de moins en moins longtemps. On boit de moins en moins au resto parce que ça coûte cher, puis on y va de moins en moins souvent. Ça veut dire qu'ultimement, il y a une maudite gang dans la restauration qui risque de fermer boutique dans les 3-4 prochaines années si on reste avec le même taux d'inflation puis avec le même mode de vie.
Oui, puis tu sais, le prix devient un problème. Puis il y avait une table ronde il y a quelques mois de ça à Radio-Canada Québec avec quelques restaurateurs. Puis l'animateur disait justement, « Hey, c'est quoi la solution? » là? Parce qu'ultimement, il y a comme une solution mathématique qui est simple puis une solution pratique qui ne l'est pas tant. Là. La mathématique te dit, « Ben, monte tes prix, c'est facile, puis ta marge va revenir. » Par contre, c'est pas vrai que tu y a un seuil psychologique au prix de l'assiette de pâtes puis au prix de la cuisse de poulet que le restaurateur ne peut pas nécessairement dépasser. Fait que ce que les gens disaient dans cette table ronde-là, c'est « Bien, regarde, nous autres, on pense que sur bien des produits, on est au maximum du seuil psychologique que la personne veut payer. Fait qu'on essaie de couper ailleurs. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu réduis les portions, tu coupes peut-être à contre-cœur dans la qualité dans certains cas, mais tu n'as pas le choix, c'est ça ou tu n'opères pas. »
Puis c'est rendu qu'on sait qu'est-ce qui est en spécial quand dans l'année, parce que tu vois des menus se changer. Là.
Absolument.
Tu sais, quand tout est au canard, là, partout où tu te promènes, là, c'est le canard, là, tu sais, OK, là, il y en a en spécial à quelque part, puis ils l'ont tout acheté, parce que là, tu as le burger de canard, tu as la poutine au canard, tu as la pizza au canard, puis tu changes de resto, puis c'est la même affaire. Tu sais, puis en même temps, ben regarde, tout le monde fait son possible.
Ouais. Puis un des restaurateurs disait, tu sais, moi, c'est rendu que quand mon chef m'arrive avec un nouveau repas, tu sais, un nouveau plat qu'on aimerait peut-être rajouter sur le menu.
Il coûte combien à faire?
Exactement. Ouais. Il goûte, OK, ouais, c'est correct. Combien ça coûte? Mm. Est-ce que je suis capable de faire ça x 200, x 300, x 400? Si la réponse, c'est non, ben écoute, il faut qu'on fasse de quoi d'autre. Là.
Je sais pas si tu as regardé ça dans tes chiffres puis tes affaires. On parlait des étoiles Michelin tantôt. Ouais. Là. Mettons la tanière là, qui a deux étoiles Michelin puis qui a été capable de les garder. Est-ce qu'eux autres peuvent se permettre de prendre leur menu et leur prix puis de monter ça dans le plafond à côté puis ils vont avoir du monde pareil parce que les touristes vont y aller, les gens les plus riches vont y aller puis ainsi de suite?
Ben, tu sais, à deux étoiles Michelin, probablement que oui. Là.
Ouais.
Tu sais, parce que.
Mais à une, la compétition est encore terriblement féroce.
Le principe des étoiles Michelin, là, la règle du pouce, c'est comme, OK, une étoile, si t'es là, tu sais, essaie d'y aller, c'est vraiment bon.
Ouais.
Deux étoiles, c'est comme, OK, fais un détour. Là. T'as bien beau être à 60 km, là, vas-y.
Ça va valoir la peine.
Puis trois étoiles Michelin, c'est organise ton voyage autour de ça. Fait que, tu sais, à deux étoiles Michelin, t'as de la latitude parce que le monde, tu sais, mets-toi dans. Tu sais, quand t'es en voyage, là, t'es beaucoup moins gratte-scène que quand t'es le jeudi soir sur Uber Eats.
Ouais, ça fonctionne pas pareil.
Si
hein?
je suis en voyage, t'es un Italien ou un Allemand qui est ici, qui voit ça, deux étoiles Michelin, il est pas en mode « Hey, c'est donc bien cher ». Il est en mode expérience. Fait que probablement que la tanière en est un qui a un free pass que d'autres n'ont pas.
Je me suis posé la question parce qu'en fin de semaine, je m'en vais dans un chalet avec ma blonde. C'est son cadeau de fête. Puis on a remarqué que la microbrasserie, le presbytère, est à une demi-heure de char. Ouais. Le presbytère, ça a gagné...
Sur recommandation?
Ça a gagné le meilleur restaurant du Québec, le prix populaire. Fait que je disais à ma blonde, tabarnouche, on aurait dû y aller deux semaines avant. Hein,
wow. Ça, c'était au Laurier, dans le fond, qui est terminé lundi passé.
Ouais,
c'est
ouais,
ça.
Ouais,
c'est une grosse semaine pour la restauration la semaine dernière.
Mais je me dis qu'à partir... mon réflexe de consommateur, c'est qu'à partir du moment où un resto, un pub a des décorations puis des médailles comme ça, ben sont en mesure de peut-être monter le prix de façon quasi instantanée. Là.
Fait que tu sais, ça c'est vrai. En effet, c'est un bon point. Moi, ce que j'essaie de communiquer comme message, là, c'est... Faut pas voir la restauration, surtout à Québec, là, on est tellement chanceux, tu sais, pour la grosseur de ville qu'on est, là, l'offre, tu sais, on a accès à des expériences... gastronomique assez exceptionnel.
Il n'y a personne qui essaye de fourrer personne présentement. Là.
Non, vraiment pas. Puis moi, ce que je dis aux gens, c'est si vous en avez les moyens, si c'est quelque chose qui est possible pour vous, voyez-le comme une expérience culturelle. Mm-hmm. Moi, quand je m'en vais voir Martin Matt, je ne suis pas en train de me dire, t'as peur, là, ça c'est un micro, là, c'est un tabouret, il y a une bouteille d'eau, là, tu viens de me charger 55$, il n'y a pas...
Me suis fait avoir.
Non. Ça, c'est ce que moi je dis, puis je ne vais plus voir de show du monde depuis ce temps-là.
Ça, c'est un problème.
Oui, effectivement.
Mais tu sais, quand je vis une expérience culturelle de genre-là, je suis pas en train de compter qu'est-ce qui se passe partout puis de dire, ah, ça vaut... Je me laisse guider par l'artiste. T'sais. La restauration dans ma tête, c'est la même crise d'affaires. Mm-hmm.
Ouais.
Le chef, le restaurateur, il n'y a personne qui est en train de se payer un chalet là-dedans. Tout le monde est en train de me dire, hey, permets-moi de te faire vivre une aventure. Le prix de l'aventure, c'est ça. Mm-hmm. Accepte de payer ça, puis reviens-en.
Puis c'est-tu là que le service peut faire la différence aussi? Parce que tu dis vivre une aventure. Quand la personne qui va t'amener les plats puis qui va te parler du menu, tu sens sa passion, tu sens qu'il est content d'être là. Ça fait toute la différence du monde. Puis t'es plus conscient que ce que tu payes dépasse ce qu'il y a dans l'assiette.
Ouais.
Tu sais, ça aide un peu l'expérience. Là.
Mais des fois, c'est comme moi, des fois, je comprends rien aussi. Là. On dirait que moins tu comprends, mieux l'expérience va être bonne.
Ah, OK, tu peux le voir de même aussi.
On dirait des fois, ils nomment un paquet de légumes. Je suis comme, ça pourrait même pas être un vrai mot. Puis
c'est quoi un pâtisson? Ça existe même pas.
Je fais confiance.
Là. Je comprends rien, mais je le mange, puis j'aime ça.
Exactement.
Hey, merci, Alex Leblon.
Merci à vous autres.
Alex Leblon, qui est planificateur financier. J'ai hâte d'aller vous lire. 418-971-1021. On fait une courte pause, on revient. Vous êtes à Boulevard, c'est Gravel, dans le retour.
Gravel.
Boulevard.
Dans le retour.
102-1. Gravel dans le retour, présenté par Axia Courtier Hypothécaire. Avant de signer, prenez le temps de choisir. Avec Axia, sécurisez votre hypothèque intelligemment. Axia, la valeur d'un bon choix.
C'est la grande vente d'ouverture du 11 au 24 mai chez Automobile en direct à Sainte-Foy. Des rabais instantanés jusqu'à 1 000 $, des baisses de prix sur plus de 400 véhicules, plus de 700 véhicules à moins de 20 000 $. Détails en succursale chez Automobile en direct. Ton auto, on l'a direct.
Pièces d'auto-économique, c'est 8 magasins et ce, partout au Québec. C'est des grandes marques et des prix compétitifs. Promotion en cours sur les freins Brake Max et Bosch et plus encore. En grande nouveauté, notre magasin sur Charest vous accueille aussi le samedi de 8h à midi. Pièceéconomique.com.
La Fondation du CHU de Québec vous invite à relever le défi Kilimanjaro à Québec.
Mettez vos jambes à profit le samedi 13 juin.
En équipe, gravissez un total de 60 fois les escaliers du parc de la chute Montmorency. Contribuer, c'est offrir des approches innovantes qui transforment la vie des patients du CHU de Québec Université Laval. Êtes-vous prêt à gravir l'équivalent de la célèbre montagne africaine? Inscription au fondationduchutequebec.org.
Avec le prix de l'essence qui augmente, c'est le temps de passer à l'électrique avec Kia Lévis. Il n'y a jamais eu un meilleur moment pour se procurer le Kia Niro EV Wind. En incluant le rabais Fidélité, la remise gouvernementale et le rabais Kia jusqu'à 5 000 $, la Niro EV vous est offerte en location pour 60 mois à partir de seulement 95 $ par semaine. Et il n'y a aucun acompte à verser. Passez vite chez Kia Lévis pour en faire l'essai. Kia Lévis. Sur approbation du crédit, 16 000 km par année.
Le Raid Bras du Nord Promotuelle Assurance est le plus gros rassemblement de vélos de montagne au Canada. L'événement va se dérouler du 21 au 23 août prochain sur 3 jours et vous pouvez participer à nos très populaires courses avec nos 5 distances de course de 20 à 75 km. On a un défi pour tout le monde. On dirait que pendant des années, j'ai pensé que le Raid Bras du Nord, c'était comme pour les grands sportifs. Mais non, pas nécessairement. Là. Ça rassemble autant les cyclistes aguerris que les amateurs, que les familles. Vous voulez faire ça que la job, c'est possible aussi avec des collègues. Faire le défi corporatif le vendredi 21 août, c'est une boucle à relais de 5 km. Ça se fait super bien. L'événement présente aussi 2 soirées de spectacle gratuits, une ambiance festive pour toute la famille durant la fin de semaine. Et en tant qu'organisme à but non lucratif, à Cobénénel, les profits sont remis à des organismes de la région de Portneuf qui ont pour objectif de promouvoir le sport amateur. Vous voulez des informations? redbrasdunord.com.
Le printemps s'installe et